Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette quatrième édition du live de Radio Bossé. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter de l'actualité et des événements à suivre au lycée. Dans cette édition, la rubrique « L'invité du live » de Jeanne nous amène tout d'abord à la rencontre de Madame Chafanel et Lemercier, professeurs documentalistes qui nous parleront du rôle central que joue le CDI au sein du lycée. Ensuite, nos deux chroniqueurs Karl et Mélodie vous présenteront un micro-trottoir en compagnie des classes de seconde 14 et 17 au sujet d'une pièce de théâtre à laquelle ils ont pu assister aux côtés de Madame Tornard. Pour continuer, le zoom sur de Candice et Nouran s'arrête aujourd'hui sur l'activité de Monsieur Ménager, jardinier au lycée. Place ensuite à l'actu avec la chronique Géopoliticus. Mathias nous parlera du conflit israélo-palestinien qui domine l'actualité depuis plus d'un mois. Puis Karine partagera avec nous son analyse du film Barbie dans son petit journal de la culture pour comprendre s'il s'agit véritablement d'un film féministe. Pour terminer, Angelo, avec le En Bref, nous présentera les infos sur les événements à venir au sein de notre établissement. Sans plus tarder, plongeons-nous au cœur du lycée aux côtés des professeurs documentalistes venus nous parler du rôle du CDI, interview réalisée par Jeanne.
Bonjour à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans notre rubrique « L'invité du live ». Pour le quatrième numéro de notre live, je ne vais pas interviewer un invité, mais bien deux. Il s'agit de Madame Chafanel et Madame Lemercier, les professeurs documentalistes du CDI de notre lycée. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Madame Lemercier, pouvez-vous nous parler du CDI, de sa place dans ce lycée et de ses missions ?
Donc le CDI, qui signifie, comme vous le savez bien sûr tous, « Centre de documentation et d'information », a plusieurs missions dans un établissement. Dans votre lycée, le CDI est effectivement bien au centre de l'établissement, puisqu'il est situé au rez-de-chaussée et très facilement accessible. Vous pouvez vous y rendre sur tous vos temps libres, avant, après les cours, on a toujours des élèves dès 8h et jusqu'à 18h. Vous y trouverez toute la documentation nécessaire pour vos recherches, qu'elles soient imposées par un professeur ou que ce soit des recherches personnelles. Vous pouvez vous informer grâce aux affichages sur les salons d'orientation, les programmes de cinéma, d'activités culturelles, mais aussi en parcourant la presse disponible au CDI. Et le CDI est bien sûr un outil pédagogique, évidemment, mais aussi un espace où vous pouvez lire pour le plaisir ou alimenter votre culture personnelle. Enfin, et nous sommes très sensibles à cet aspect, le CDI est un espace accueillant, et pour certains élèves même rassurant et reposant. Certes, nous passons notre temps à dire « chut ». Voilà. Mais c'est aussi pour maintenir cette ambiance calme et apaisante. Vous pouvez aussi croiser parfois vos professeurs qui viennent préparer leurs cours ou corriger leurs copies, comme Monsieur Bourguin par exemple.
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée, c'était très intéressant. Maintenant je vais donner la parole à Madame Chafanel. Pouvez-vous nous expliquer donc quel est votre rôle en tant que professeur documentaliste ?
Alors comme nous venons de le dire, nous veillons au calme et au respect des quelques règles qui sont à respecter. Nous avons également pour mission d'alimenter le fonds documentaire, c'est-à-dire de commander des livres qui seront mis à disposition dans les rayonnages, de choisir les abonnements aux revues, de sélectionner les ressources numériques qui nous semblent les plus pertinentes. Tous ces documents sont ensuite saisis dans la base documentaire du CDI, qui s'appelle EasyDoc. Nous vous rappelons, d'ailleurs, que vous pouvez accéder à ce portail du CDI via Atrium. Vous y trouverez recensés tous les livres et les articles des magazines du CDI, mais également des sites internet, des podcasts, des vidéos. N'hésitez pas à le consulter pour vos recherches. Il est moins risqué que ce moteur de recherche auquel vous faites une confiance aveugle, Google.
Merci beaucoup. Alors, d'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer votre rôle de centralisation de tous les projets culturels du lycée ?
Nous nous chargeons effectivement de l'organisation de la plupart des projets culturels, surtout ceux financés par la Pass Culture. Et dans le cadre de ce pass, l'établissement bénéficie quant à lui d'une part appelée collective pour chaque élève inscrit. Et cette somme peut être utilisée pour des sorties culturelles. Ce n'est pas en tant que professeur documentaliste que cette mission nous est confiée, mais parce que nous avons été désignés comme référents de culture. Cela implique de nous tenir informés des manifestations culturelles, d'être en relation avec les acteurs culturels proches et d'informer les enseignants lorsque des propositions peuvent avoir un intérêt pour eux.
Nous pouvons venir en aide aux enseignants qui souhaitent organiser une sortie. Nous faisons alors apparaître toutes ces actions sur une application dédiée qui s'appelle Adage. D'ailleurs, nous en profitons pour vous informer que depuis cette application, nous pouvons fournir à chaque élève en fin de terminale son parcours culturel, c'est-à-dire un document sur lequel sont recensées toutes les manifestations culturelles auxquelles il a participé pendant ses 3 années de lycée. Pour certaines demandes de formation, cela peut être un plus sur Parcoursup.
C'est très intéressant, merci beaucoup. Et on va continuer avec vous. Combien de projets culturels sont menés au cours de l'année ?
Vous avez la chance d'être dans un lycée qui propose plein d'activités en plus des cours traditionnels. L'an dernier, plus d'une 50aine de sorties ont été recensées. Théâtre, cinéma, sensibilisation à l'environnement, ateliers pratiques artistiques, rencontres artistiques, participation à des festivals. Cette année, cela démarre encore plus fort. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez de pouvoir bénéficier d'autant d'offres culturelles.
Oui, on s'en rend compte et ça fait énormément plaisir. Maintenant, Madame Le Mercier, avez-vous chacune des thématiques respectives sur lesquelles vous travaillez ?
Non. Nous formons une équipe et nous y tenons. Nous sommes arrivés en fait en même temps dans cet établissement, c'est notre 3e rentrée. Et dès le premier jour, on s'est vite aperçu qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on était en accord dans de nombreux domaines. Et de plus, comme nous avons choisi une ouverture maximale du CDI, du lundi 8h au vendredi 18h en continu, c'est-à-dire pendant 44 heures par semaine, nous ne sommes véritablement ensemble que pendant 16 heures par semaine. Donc imaginez un peu si on vous répondait lorsqu'on est seul au CDI, « Désolé, c'est ma collègue qui s'en occupe, repasse plus tard ». Alors on communique, on échange, on a même un petit cahier de liaison pour ne rien oublier. Et on voulait être capable de répondre à toutes les demandes, à tous les besoins, qu'ils émanent des élèves ou des enseignants, à n'importe quel moment. Bien sûr, nous sommes quand même différentes. Moi, quand je suis arrivée, j'avais une obsession. C'était mettre en place une web radio, parce que j'avais expérimenté cet outil dans mon précédent établissement et je trouvais cela génial. Et je trouve que c'est important qu'un établissement ait son propre média. Je suis ravie de voir que les élèves de Beaussier s'en sont emparés de façon vraiment brillante. Ensuite, j'adore le théâtre, la danse, le cirque, et je suis toujours à l'affût de ce genre de projet. J'aimerais aussi proposer mon aide aux élèves en difficulté de façon plus formelle. Certains ont compris qu'ils pouvaient me solliciter, mais la plupart des élèves ne savent pas que nous pouvons les aider dans leur travail.
En ce qui me concerne, je suis plus intéressée par l'éducation aux médias et les sciences humaines, c'est mon côté historienne, mais aussi par la culture scientifique. Éduquer aux médias et permettre aux élèves d'acquérir une solide culture scientifique est essentiel dans la lutte contre la désinformation et l'ignorance. Je collabore beaucoup avec les enseignants pour enrichir le fonds documentaire sur ces sujets. J'aime également ouvrir le CDI à des expositions, des interventions extérieures. J'ai une autre obsession, qui est l'organisation et l'optimisation de l'espace, l'adéquation entre l'organisation spatiale du CDI en tant que bibliothèque et les besoins des élèves. À notre arrivée, nous avons beaucoup réfléchi pour faire du CDI un espace de travail convivial et accueillant. Et donc, tout réorganiser au CDI du sol au plafond, y compris toute la documentation.
Eh bien merci, c'était très intéressant d'apprendre plus de choses vous concernant. Et pour terminer, est-il facile de gérer et d'organiser tous ces projets ?
Bon, il y a des temps forts où ça se bouscule un peu, mais dans l'ensemble ça va. Heureusement quand même que nous sommes deux, sinon il faudrait faire des choix et là ce serait vraiment très frustrant.
Merci beaucoup. Malheureusement notre interview touche déjà à sa fin. Un très grand merci à Madame Chafanel et Madame Le Mercier d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour le prochain invité du live.
Merci beaucoup Jeanne. Nous espérons que cette interview pourra réconcilier certains avec le CDI et ouvrir de nouvelles portes aux élèves en quête de savoir. Sans attendre, allons à la rencontre des élèves des classes de seconde 14 et 17 afin de discuter la pièce de théâtre à laquelle ils ont assisté avec Madame Tornard, interrogée sur le terrain par Mélodie et Karl. Écoutons leurs ressentis.
Bonjour à tous, c'est Mélodie. Aujourd'hui avec Karl, on est parti interroger une classe de seconde qui sont partis voir une représentation théâtrale aux côtés de leur prof de français, Madame Tornard.
Donc, première question, décrivez-nous la pièce de théâtre que vous avez vue.
La pièce s'appelle Goodbye Penelope de Elisa Leidette. On l'a vue au salle du Tissot, ça parle de Penelope. Elisa, elle a créé la Penelope à partir de la Penelope d'Elisa. Et cette pièce, elle parle de trois femmes qui parlent entre eux. Et en général, Penelope, elle a envie de partir, mais elle n'est pas sûre.
Donc, deuxième question, en quoi est-ce que ce spectacle est utile dans votre apprentissage en français ?
Je pense que le spectacle m'a appris la formulation en français parce qu'il part dans un langage soutenu et en écoutant, ça nous aide à mieux s'exprimer dans nos phrases et moins être familier.
Et du coup, dernière question, est-ce que ça vous a plu ?
Oui, la pièce de théâtre m'a beaucoup plu. Je l'avais déjà vue en troisième. Paris à la salle Chiso. C'est une pièce de théâtre que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai beaucoup aimée parce que c'était comme dans le texte, c'était tout pareil et du coup c'était drôle de voir que c'était pareil. J'ai aimé les jeux de mime, les blagues avec le seau et leur façon de jouer. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui, ça m'a plu. Enfin, pas vraiment, mais oui. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un personnage, une des trois, elle parlait de sa grand-mère. Et si je dois recommander à un ami, je dirais qu'à la fin, on ne sait pas si Pénélope, elle va partir ou pas. Il y a des suspens.
Oui, parce que je trouve que les actrices, elles ont bien joué. Et aussi, j'aime bien comment ils ont parlé, leur manière. Ils ont bien montré les émotions et même s'ils ont un peu découpé les petites parties où ils ont ajouté, ça donnait un peu plus de vie et oui, ça m'a plu.
En quoi ce spectacle a été utile pour les élèves ?
Alors, aller au théâtre, c'était une expérience puisque certains n'y étaient jamais allés. Donc, c'est d'abord cette dimension-là. C'est un travail de liaison avec le collège. Donc, il y a les élèves de 3e et de 2e. Donc, c'est un moment de partage aussi. Et ça permet aux élèves de 3e de voir aussi comment on travaille au lycée, puisqu'il y aura des ateliers de pratique théâtrale qui sont prévus par la suite. Et en même temps, tout ce que ça peut apporter en termes de savoir, comme toute la dimension du théâtre, qui est un art du vivant, et on n'a pas ça sur d'autres genres comme le roman ou la poésie. Voilà. Donc c'était pour qu'ils prennent la mesure de cet art-là en voyant un véritable spectacle.
Merci.
Merci à notre duo de choc. Et merci à Jérémy, Anna et Andrea, ainsi qu'à Madame Tornare pour leurs interventions. Passons maintenant avec Candice et Nouran au Zoom sur. Elles nous font découvrir cette semaine le métier de jardinier au lycée grâce au témoignage de Monsieur Ménager.
Allons à la rencontre de Monsieur Ménager, jardinier au lycée Bossier. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer le métier de jardinier dans un établissement scolaire ?
C'est pas forcément dans un établissement scolaire le choix, mais c'est plutôt de faire le métier de jardinier, c'est le côté créatif de ce métier. Après, le faire dans un établissement scolaire, c'est de transmettre un petit peu quelque chose dans la position que j'ai de jardinier à travers le travail que je fais au quotidien, dans le respect de la nature ou dans l'embellissement de l'environnement que vous avez au quotidien.
En quatre mots, quelle est la journée type d'un jardinier dans un lycée ?
Quatre mots. Alors, c'est préparation de l'entrée hein, des élèves, veiller au fonctionnement de l'établissement, bien sûr la propreté aussi, et puis après toutes les tâches d'entretien qui sont selon ces saisons diverses.
Depuis combien de temps êtes-vous au lycée Bossier ?
Depuis 2020 ou 2021, je ne sais plus, j'ai plus.
Quatre tâches que vous aimez faire dans votre métier ?
Alors, quatre, c'est ça hein ?
Oui. Ouais.
J'aime tout ce qui est attrait à la création, mais j'ai beaucoup de plaisir également à entretenir parce que j'estime que ça transmet un petit peu un côté accueil, respect de l'endroit, peut-être aux élèves, et arriver dans un établissement qui est entretenu, peut-être on le respecte davantage. Suivre les saisons, enfin les tâches, les tailles et tout ça, parce que c'est agréable pour faire en sorte que les végétaux soient en bonne santé et produisent après des fleurs ou soient en bonne santé. Voilà, je ne sais pas si j'en suis à quatre. Non.
Quatre tâches que vous n'aimez pas faire du tout dans votre métier ?
Alors, on va dire, et celles qui me font le moins plaisir, ça va être de ramasser des papiers dans les parties espace vert ou même dans la cour. Hein. C'est moins agréable. Y a un côté aussi monotone quelquefois à ramasser les feuilles, par exemple. C'est pas quelque chose de... Mais ça fait partie des choses qu'il faut faire, mais qui sont pas les plus attrayantes. Travailler sous la pluie aussi, ça c'est quelque chose que je n'aime pas, travailler sous la pluie, même si elle est bienvenue parce qu'on n'en a pas assez. Et puis en dernier, peut-être aussi la grouche, travailler avec un excès de chaleur aussi. L'été, c'est la saison la plus difficile, mais bon, on a la chance d'avoir des grandes vacances.
Vous êtes plutôt mocassin en cuir ou bottes en caoutchouc ?
Alors, j'ai envie de dire plus proche des bottes en caoutchouc, parce que j'ai horreur des mocassins, mais après je suis pas fan des bottes en cuir, hein. Des bottes en caoutchouc, pardon.
L'année dernière, il y avait le projet Jardin. Continue-t-il encore cette année? Si oui, auriez-vous quelque chose à dire pour donner envie aux élèves de s'y impliquer?
Oui, bien sûr qu'il continue. Il continue essentiellement grâce à trois personnes, qui est Marie Maillan, c'est la prof de SVT, et puis Charlène, dont je ne connais pas le nom de famille, mais qui est technicienne et qui accompagne aussi. Et moi-même, tous les trois, on est présents avec tous les élèves qui veulent bien. Je pense que le projet Jardin, il ne faut pas le voir uniquement comme un endroit où on vient jardiner, mais aussi un endroit où ça peut être, comme on le fait en ce moment, de la discussion, de l'échange, ou le plaisir d'être au soleil ou à côté oisif. Mais c'est tous ces avantages d'avoir un petit peu un CDI extérieur où il y a plein de choses intéressantes à regarder, à voir et à partager.
Merci de nous avoir écoutés et merci à Monsieur Ménager pour cet échange. Et n'hésitez pas à venir admirer et apprécier le jardin.
Merci beaucoup à notre second duo de choc. Et n'hésitez pas à aller flâner dans le jardin pour vous détendre et prendre le temps de réfléchir. C'est un beau conseil que nous donne Monsieur Ménager. Place maintenant à l'actu et au sujet qui anime les débats depuis maintenant plus d'un mois, le conflit israélo-palestinien. Écoutons Mathias avec sa chronique Géopoliticus qui va tenter de nous éclairer sur les enjeux de cet événement en se plaçant dans le temps long de l'histoire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Géopoliticus, nous allons aborder le conflit israélo-palestinien en prenant un peu de distance et en privilégiant le temps long de l'histoire. Car en effet, le sujet est complexe. Ce conflit israélo-palestinien est généralement daté de 1948 avec la création de l'État d'Israël et la non-création de l'État de Palestine. Mais ce conflit prend en réalité ses racines dès la fin du XIXe siècle et va s'accélérer avec la Première Guerre mondiale. Celle-ci va entraîner la chute de l'Empire ottoman et permettre l'installation de structures coloniales au Proche et Moyen-Orient. C'est entre 1920 et 1948, pendant cette période de domination coloniale britannique, que se déclenche le futur conflit israélo-palestinien. Au XIXe siècle, la Palestine est une province de l'Empire ottoman, avec une valeur symbolique et spirituelle, puisque Jérusalem abrite le Dôme du Rocher, troisième le saint de l'islam. À la base, les communautés juives et arabes vivaient en harmonie dans la province. Mais ce qui va contribuer à troubler ces bonnes relations, c'est l'investissement de plus en plus grand des puissances européennes dans la région, et en Palestine en particulier. Parallèlement en Europe, se développe à la fin du XIXe siècle un mouvement politique face à l'antisémitisme, le sionisme, animé par Theodor Herzl. Ce mouvement sioniste fait pression, notamment sur les Britanniques qui sont positionnés en Palestine. Cela aboutit à la déclaration de Balfour de 1917, dans laquelle le Royaume-Uni exprime son soutien à l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine sous protectorat britannique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Britanniques, qui sont toujours à la tête du mandat sur la Palestine, doivent faire face à une situation radicalisée. Les Arabes n'ont plus de structure unifiée de résistance et les sionistes sont remontés contre les Britanniques. La situation devient ingérable et Londres décide de transférer le dossier israélo-palestinien à l'ONU. Le 28 avril 1947, l'ONU décide d'une enquête pour élaborer une sortie de crise. Les États-Unis et l'URSS, puissances dominantes, font savoir qu'elles sont favorables à un plan de partage de la Palestine. Et le 20 septembre 1947, la Grande-Bretagne accepte d'évacuer unilatéralement la Palestine. L'agence juive accepte le plan de partage tandis que les Arabes le refusent. Mais celui-ci est finalement accepté à la majorité le 29 novembre 1947 par l'ONU. Dans la foulée, Ben Gurion proclame l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948, malgré l'opposition des pays arabes voisins, et surtout des Palestiniens, car Israël est installé sur 60% du territoire palestinien. Cela va déclencher les premiers conflits entre l'État d'Israël et certains États arabes, notamment l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, qui s'engagent pour la cause palestinienne. Comme la guerre des Six Jours en 1967, ou encore celle du Kippour en 1973. Israël sort vainqueur de ces deux guerres, ce qui lui permet d'élargir fortement son territoire au détriment des territoires palestiniens. Cependant, une lueur d'espoir apparaît au début des années 1990, suite à la signature des accords d'Oslo, en 1993 et 1995, entre Israël et l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui vise à établir un cadre pour la paix et l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, les deux territoires palestiniens. Cependant, ces accords ne conduisent pas à une paix durable, à cause de la méfiance et des tensions trop vives entre les deux parties. Le conflit israélo-palestinien persiste et s'intensifie même. Tout cela nous amène aux récents événements, conséquences de conflits qui durent depuis des années. Le samedi 7 octobre dernier, le Hamas, un mouvement palestinien dont la branche armée est considérée comme terroriste selon l'ONU, dont le but est d'anéantir Israël et de faire valoir la reconnaissance de l'État palestinien, a tiré plus de 5000 roquettes sur Israël. Ces attaques ont été accompagnées de bulldozers et d'explosifs utilisés pour franchir la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien. On compte plus de 1200 morts côté israélien et environ 250 otages emprisonnés dans Gaza. Les actions du Hamas seraient justifiées selon eux, car ils luttent contre Israël qui violerait les droits humains et qui oppresserait les Palestiniens, notamment à cause du blocus israélien qui, depuis 2017, limite fortement les importations à Gaza, ce qui provoque une situation difficile de pauvreté, ainsi que contre les colonies juives en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien. Face à ces attaques, Israël a riposté en bombardant la bande de Gaza à son tour, avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, tout en ayant, selon leur dire, prévenu tous les habitants de se mettre à l'abri. Le Hamas déclare aujourd'hui que plus de 10 000 Palestiniens ont été tués suite au bombardement israélien. Ce qui est certain, c'est que ce sont les civils qui sont les plus nombreux parmi les tués, et ce, pour les deux camps. Les tensions entre Israël et Palestine ont évidemment des répercussions géopolitiques à l'échelle internationale. Certains pays comme la France ou les États-Unis apportent leur soutien à Israël, tandis que des pays comme le Liban, l'Iran ou la Turquie soutiennent la cause palestinienne. On suppose que ces tensions éloignent jour après jour les tentatives de paix et de solutions politiques entre les deux États, et l'on peut craindre un embrasement de la situation au Proche-Orient.
Merci Mathias pour ces quelques précisions tout de même capitales dans un contexte aussi complexe comme celui-ci. Sans plus tarder, une dose de culture avec Karine au sujet du film Barbie. Karine, tu te demandes aujourd'hui si le film Barbie est véritablement féministe ou si finalement, ça n'est qu'un produit marketing au service de la vente des fameuses poupées. On t'écoute.
Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du célèbre film Barbie réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. Le film est sorti en juillet dernier et a obtenu un franc succès avec plus d'un milliard de recettes cumulées. Ce film a beaucoup plu aux spectateurs, aussi bien les petits que les grands. Mais les messages fondamentaux du film ont-ils toujours été compris? Le film Barbie n'est-il que du rose et des paillettes? Ou cache-t-il un sens plus profond? Avant de comprendre quels sont les messages cachés, retraçons l'univers des poupées Barbie. Le jouet Barbie est créé en 1959 par Ruth Handler, cofondatrice de la société Mattel. Cette dernière tombe sur une poupée pour adultes qui ressemble à une femme et décide d'en lancer une à destination des petites filles, en leur permettant, avec Barbie, de se projeter dans un univers d'adultes en délaissant les poupons qui, jusqu'à alors, renvoyaient plutôt au rôle de mère et de femme au foyer. En effet, il y a une volonté d'inscrire Barbie dans la modernité. C'est une femme active qui colle à l'air du temps et on a ainsi pu voir une Barbie astronaute au moment des premiers pas de l'homme sur la Lune, une Barbie noire au moment de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits ou encore une Barbie PDG dans les années 1980 et le capitalisme triomphant. Si Barbie propose un modèle d'émancipation pour les jeunes filles, il ne faut pas oublier que cette évolution sont évidemment réfléchies dans une dimension marketing. Viendra par la suite la création d'une nouvelle poupée, celle de Ken, qui est la version masculine tout aussi parfaite que celle de Barbie. Mais malgré l'idée progressiste de ces poupées, elles reçoivent également beaucoup de critiques. Certains jugent que Barbie vend un rêve inatteignable aux petites filles, avec ce corps désirable et adapté au canon de beauté, à l'époque, et on l'accuse de véhiculer des clichés sexistes. Face à la baisse des ventes et à la pression notamment du mouvement MeToo, Mattel lance des silhouettes plus inclusives et plus attentives à la diversité. Puis vient l'idée de la réalisation d'un film qui jouerait sur l'autodérision, confié à Greta Gerwig, plutôt connue jusque-là dans le cinéma d'auteur. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, Barbie vit dans son monde parfait, Barbieland, où le matriarcat prône. Un jour, elle devient imparfaite, ce qui l'oblige à aller dans le vrai monde des humains, accompagnée de Ken, pour redevenir comme avant. En arrivant, elle se rend compte qu'elle n'est pas aimée de tous, que la société humaine est patriarcale et que la joie n'est pas le sentiment qui règne. Toutes ses croyances s'effondrent et elle doit faire face à la dure réalité. Le film propose donc plusieurs pistes de réflexion. La première est celle du féminisme, avec un questionnement sur la place de la femme au sein de la société. Il y a également celle du patriarcat installé dans le monde réel et qui va prendre place dans le monde de Barbie. Car Ken,
quand il rentre à Barbieland, trouve que les Barbies prennent une place trop importante, rappelant ainsi que l'équilibre entre la place de l'homme et de la femme est importante et que ni une société entièrement patriarcale ou entièrement matriarcale ne serait bonne. Enfin, celle de la santé mentale avec l'acceptation de nos imperfections, qui nous rendent justement humains et différents les uns des autres et non comme une poupée sur un modèle unique. Cependant, le film ne bouscule pas vraiment l'ordre des choses et reste victime de son projet marketing. Par exemple, il sous-entend le fait qu'il existerait des activités réservées aux filles et d'autres aux garçons, ce qui renforce les normes de genre. Ou encore, il soutient que le féminisme pour les femmes est de pouvoir faire ce qu'elles veulent en s'appuyant sur le slogan de Mattel « You can be anything ». Mais il occulte par là même les barrières que certaines femmes rencontrent quand elles ont un corps éloigné de l'idéal de beauté. Car aujourd'hui encore, les femmes sont trop souvent contraintes de jouer le jeu de la beauté pour pouvoir s'émanciper, ce qui les réduit à leur statut. Sacré paradoxe. Malgré tout, la réalisatrice réussit à nous plonger dans un univers qui n'est pas le nôtre, tout en soulevant des problématiques de nos sociétés actuelles, en se jouant du premier degré et finalement en mettant en avant la belle idée de la sororité, ce qui lui a sans doute valu son grand succès.
Nous remercions Karine pour ce point culture. Et pour finir, les actualités à suivre au sein du lycée avec le En bref d'Angelo. Alors Angelo, quoi de neuf ?
Bonjour à tous, je m'appelle Angelo Bruzon et je vais faire le point pour vous sur les actualités de notre cher lycée. Tout d'abord, le mardi 14 novembre ont eu lieu des interventions contre le harcèlement. Les professeurs du lycée ont pu sensibiliser les élèves à cette problématique extrêmement importante. Ce fut également l'occasion de participer au sondage national réalisé par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, très engagé dans cette lutte contre toute forme de harcèlement à l'école. Le mercredi 15 novembre a eu lieu de 9h à 10h en salle polyvalente pour les élèves de terminale ayant comme spécialité physique et maths la présentation des classes préparatoires par M. Arnaud, professeur au lycée Rouvière, et par M. Monaldi, référent de la liaison lycée enseignement supérieur à Bossieux. Cela a permis à ces élèves d'être plus éclairés sur leur avenir et leur orientation. Toujours mercredi, c'est le comité départemental d'éducation à la santé du Var qui a animé des ateliers de sensibilisation aux addictions pour les classes de première. Cette semaine, 7 élèves andalous ont été accueillis au lycée. Ces échanges se réalisent dans le cadre du programme Picasso Mob, géré par Madame Caparros. Ces élèves vont rester 4 semaines parmi nous, bienvenue à eux. Très prochainement aura lieu un voyage organisé par Madame Mourenne, du 27 au 29 novembre, à Massacan, situé aux alentours de la ville de la Garde, dans le cadre des Drisses de la Russie. Le 28 novembre, c'est la journée de la Méditerranée et les éco-délégués accompagnés des référents développement durable du lycée y sont très sensibles. Enfin, le 8 décembre aura lieu toute la journée une animation pour le Téléthon, mais on vous en reparlera très prochainement dans un prochain numéro du En bref. Bonne semaine à tous.
Merci Angelo pour ces informations, merci à tous nos chroniqueurs et à l'équipe technique, et surtout merci à vous de nous écouter. Vous êtes plus de 300 auditeurs en moyenne à écouter le live de Radio Bossier. Un grand merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous pour agrandir la communauté. C'est fini pour cette semaine. Rendez-vous pour notre prochaine édition le mardi 5 décembre.